Un exceptionnel début de journée à tout le monde. Le soleil qui vient de se lever tranquillement, mais sûrement sur la vieille
capitale. Il est beau.
C'est de toute beauté. Merci à Max de m'avoir descendu un peu à toile parce que j'étais en train de devenir aveugle. Mais profitons de cette belle lumière-là, les amis. Dans les derniers jours, ça n'a pas été nécessairement évident. C'est moins 11 degrés sur Québec avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 16 degrés. Alternance de soleil-nuage pour aujourd'hui. Un maximum de moins 4 degrés, donc quand même assez confortable. Ce soir, peut-être un peu de nuages, minimum de moins 17. Demain samedi, alternance de soleil et de nuages en matinée. Des nuages par la suite en après-midi avec 60% de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 5 degrés. Et dimanche, ce sera nuageux avec un maximum de zéro. On l'accueille, c'est Roger Ferland qui est ex-enquêteur au service de police de la ville de Québec qui est avec nous ce matin. Salut Roger!
Bonjour, messieurs, dames.
Merci d'être là. T'es déjà à l'école, c'est ce que je vois, là.
Oui, effectivement. Je préférais venir ici puis faire une entrevue avec vous autres ici directement, plus calme et posé ce matin.
Ah, voilà.
Es-tu gentil, ce Roger-là? Oh, hier, il m'a dit, mon cours est à 8 heures, je vais me rendre au cégep avant, comme ça, je vais faire ça du cégep par Zoom. Et là, moi, j'y réponds. Ouais, ça serait 6h45, puis il est à son bureau à 6h45 pour nous dire.
Oh. Ouais, mais il aime ça. T'es un passionné. Roger, je sais pas si t'as vu l'histoire de Raphaël Plamondon qui est en train de subir un procès devant jury au Palais de justice de Québec. C'est un gars de 37 ans. On parle d'accusations d'intimidation, de harcèlement, de voies de fermée à l'égard d'agents correctionnels. L'opération a été filmée au centre de détention de Québec, donc à la prison d'Orsainville. C'est arrivé en juillet 2024 dans le bloc F. Le gars menaçait de mort les agents, a tenté de les intimider, était armé d'un couteau. Et ce qu'on jasait ce matin avec les boys, c'est cet homme-là qui est en train de subir son procès devrait remercier la vie d'être encore en vie parce que s'il avait croisé des policiers armés sur son chemin avec des couteaux dans les mains, ça aurait été terminé pour Raphaël Plamondon, là.
C'est assez certain, oui, parce que quand une personne est désorganisée à ce point-là, ben, tu es obligé de faire face à la menace imminente en avant de toi. Puis l'objectif premier, c'est de neutraliser la menace, à toi en restant aussi en vie, bien sûr. Fait que c'est pour ça qu'il y a souvent, on parle d'une escalade, une désescalade. Mais là, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Là, en ce moment, dans les centres carcérales, je trouve qu'on protège très mal nos agents correctionnels en ce moment. On ne leur donne pas les ressources, on ne leur donne pas le support, puis on les laisse un peu là intervenir des meilleures façons qu'ils peuvent. Ben, ça fait en sorte que très souvent, le mot « respect » n'est pas placé, ben ces gars-là se font agresser joyeusement. Puis c'est vraiment pas le fun
l'équilibre,
en ce moment.
L'équilibre des forces n'est pas pareil, Roger, parce que pour le détenu, lui, il est en situation de crise et tout ce qu'il veut, c'est anéantir la menace. Pour l'agent correctionnel, tout ce qu'il veut, c'est anéantir la menace sans nécessairement blesser l'individu parce qu'ils ont peur de perdre leur job, parce qu'ils ont peur de se faire accuser de ci ou de ça. Ce qu'on donne aux agents carcéraux, c'est des bâtons télescopiques, des boucliers, du poivre de Cayenne. C'est à peu près tout ce qu'on leur donne. Puis pour ce qui est de leur équipement, c'est un équipement de joueur de hockey. Ils sont pas équipés pour aller à la guerre contre un gars qui a un couteau, Roger.
T'as 100% raison. Puis, ajoute-moi à ça aussi, je vais te dire un phénomène. Le phénomène physique. Avant, on t'embauchait 6 pieds 2, 220, 240 livres. T'allais faire une bonne job. Là, maintenant, le gabarit n'est pas ça nécessairement. Alors, c'est correct. On va intervenir à 2, 3, 4, 5 agents. Mais tu es souvent dans des espaces restreints, en vase clos. Est-ce que tu n'as pas la possibilité de prendre toute la place que tu aurais besoin pour intervenir? Alors, ça fait en sorte que tu as bien décrit les bons outils que les gens ont. Ils n'ont pas l'outil, je pense, j'ai envie de te dire, adapté à la cause intermédiaire dans laquelle ils sont. Un couteau, là, c'est dangereux à une vingtaine de pieds. Là. C'est facile à démontrer dans n'importe quelle formation quand on les reçoit. Alors, ça veut dire que ça demande de l'espace. On n'a pas ça. Puis, les armes à feu, il y en a dans les centres carcéraux. Mais il va falloir que tu fasses un rapport. Il faut que tu la récupères à un endroit précis. Il est sous clé. Ce matériel-là n'est pas disponible dans la majorité des cas. Je veux dire, on place les agents dans des situations où est-ce qu'ils vont nécessairement devoir s'exposer et faire face à des scènes encore comme ça. Je trouve ça désolant pour eux.
Roger, j'ai le goût de démystifier quelque chose, puis je suis sûr que tu as déjà répondu à cette question-là, mais nous, on a été éduqués avec Hollywood. Hein? Il y avait des films, puis là, on voyait des policiers. Puis là, tout d'un coup, il y avait une attaque, tiens, au couteau. Et là, le policier était capable de tirer dans une jambe ou il était capable de tirer dans la main avec son arme de poing. Puis ça fait en sorte que quand il arrive des interventions qui tournent mal, puis que le suspect est maîtrisé, puis malheureusement est décédé, il y a des gens dans la communauté qui disent « Hey! » les policiers auraient pu tirer dans une jambe, les policiers auraient pu tirer dans un bras. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vous forme absolument pour tirer dans le centre-masse quand il s'agit, je sais pas moi, d'armes comme des couteaux?
C'est en fait le degré de difficulté qui est présent là-dedans. Je t'explique bien simple. Là. J'avais vu moi aussi tous les westerns, j'étais formé avec ça. Ouais. Je voyais les gens dégainer en demi, un quart de seconde. Ils étaient capables de mettre la balle ou ce qu'ils voulaient, faire partir les chapeaux.
Ton rêve, Roger, c'était d'éteindre la cigarette du criminel avec ton arme de poing, c'est ça?
Ben, c'était ce qu'on pensait qui existait, comprends-tu? Je peux te dire, là, confidence, là, les 6 premières balles à l'école nationale, là, il y en a 4 qui sont allées ailleurs que dans la cible. J'en avais 2 dans la cible, parce qu'on tirait 6 coups à l'époque. L'instructeur avait mis la main sur l'épaule en me disant, de son ton, c'était M. Stratch, je ne dirais pas les phrases exactes qu'il a dit, là, mais c'était M. Ferland, t'es mire, on ne te laissera pas démolir la salle de tir ici au complet. Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup de poussière, les gars, quand je tirais. Et j'ai dû envoyer des balles dans le plancher, dans le plafond. Puis je pensais, mais là, on va se parler. On va se parler pour vrai, là. Imaginez le canon, ça mesure 6 pouces, les gars. Là, okay? Et tu fais juste tasser de 1 mm ou 2 mm. Puis ça, tu es très précis, tu es en tir précis. Pendant, fait, reporte-moi ça sur 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Tu viens de tasser de quelques centimètres à côté de ta cible. Faites-moi le calcul mathématique. Vous allez voir, on arrive très vite à cette façon de faire-là. Je vous rajoute l'élément stress. Quand tu es en train de courir après quelqu'un ou te déplacer, arrêtez de penser que vous allez être aussi précis que vous l'êtes. Puis, tirer dans une jambe, encore là, mettons que tu serais capable de tirer dans la jambe, parce que maintenant, je serais capable de le faire, possiblement, Yannick, je ne tirerais pas partout dans le plancher puis ailleurs.
Mais si le gars est en mouvement, c'est impossible.
C'est impossible, puis ça ne veut pas dire que tu vas le neutraliser. La jambe fait en sorte que le gars va peut-être être capable encore, lui, de servir de son arme et de tirer. Si tu atteins une partie vitale dans le centre-masse, puis là, je monte mon thorax pendant qu'on se parle, bien, ça veut dire en sorte que tu vas possiblement atteindre des organes vitaux, parce que si tu te sers de ton arme à feu, tu veux protéger ta vie, mais peut-être prendre la vie de quelqu'un en avant de toi. C'est les seuls moments où tu es autorisé à faire ces actions-là. Évidemment, avec toutes les conséquences possibles après, mais tu ne peux pas te permettre de dire « je m'essaye tranquillement ». Si tu as une capacité, essaye-les. Mais d'après moi, tes premières balles, ça ne veut pas dire qu'ils neutralisent la menace que tu as en avant de toi.
Super intéressant, Roger. Et parlant d'armes à feu, Roger, un jeune de 19 ans, qui a été tué en République dominicaine à 5 heures du matin sur un scooter. Bon, supposément qu'elle allait chercher un sandwich, mais quand on a retrouvé les gars qui ont fait ça, il y avait énormément de drogue sur eux. Comment ça se passe, une enquête comme ça qui, justement, va impliquer les policiers de la République dominicaine et veut pas les gens ici au Canada et à Québec?
Bien, les gens ici, on pousse toujours pour que ça fasse de quoi, mais on recommence. Ils ont zéro pouvoir là-bas, là. Mm-hmm. Alors, là-bas, c'est vraiment les enquêteurs locaux à qui il faut que tu fasses en confiance. Ce n'est pas toujours les mêmes façons de faire que nous autres ici. On a toujours sur le territoire là-bas, dans chacun des pays où est-ce qu'il y a des échanges avec le Canada, un collaborateur qu'on appelle un agent local. On appelle ça des LO pour nous autres. C'est souvent des agents de la GRC qui sont là-bas, à l'extérieur du pays, et qui sont nos gens avec qui on collabore. Mais ça, tes policiers d'ici vont donner de l'information, mais ça n'ira pas plus que ça. Si une personne comme ça décède et se fait tirer là-dedans, j'ai entendu ça aux nouvelles, moi aussi, la première journée, j'ai trouvé ça gros. J'ai dit sûrement que les autorités locales de la République vont mettre le paquet parce que le touriste n'aime pas ça. Là. Les gens qui vont là-bas en vacances ne veulent pas louer une mobylette puis se faire tirer tantôt sur la rue. Mm-hmm. Je dis, Caroline, ils l'ont joué gros, les voleurs de mobylettes. Là, mais là, on comprend mieux maintenant. Est-ce que les enquêteurs de là-bas ont communiqué aussi avec les gens du Québec pour connaître c'est quoi le profil de ce gars-là? Là? On ne le connaît pas, nous, ici en République. C'est un touriste. Qu'est-ce qu'il était venu faire ici? Était-il juste aller s'acheter un sandwich ou pensait-il qu'il pourrait profiter un peu de peut-être la naïveté de certains pays qu'on dit un peu moins développés pour être capable d'acheter des stupéfiants, faire autrement? En tout cas, ça semble drôlement s'enligner vers une histoire comme ça en ce moment. Puis après, on peut communiquer avec eux, dire « oui, si, on connaît ce gars-là ici, il était X ou Y, on vous transfère l'information ». Mais là-bas, ils vont quand même devoir enquêter comme nous, on le fait. Là. La base est la même. Ils n'ont peut-être pas toutes les mêmes techniques, mais je peux vous garantir, dans un cas comme ça, que quand ça touche un citoyen extérieur du pays ils mettent souvent le paquet parce qu'ils vivent, eux autres, en partie, avec cette ressource naturelle-là, qui est le touriste. Fait que t'as besoin d'en prendre soin un petit peu. Là, ça allait inquiéter un peu de monde. Là, je comprends que c'est, ça donne une meilleure option pour quoi c'est. Mais il y a vraiment un travail d'enquête de base à faire. Il faut vraiment leur faire confiance. Ouais, on n'a pas d'autre choix.
C'est sûr. Quand on a entendu parler de cette histoire-là la première fois, ben, t'sais, c'est le décès d'un jeune homme de 19 ans. C'est d'une tristesse incroyable. Mais on essaie de nous faire vendre que le jeune homme, avec son frère, à 5 heures du matin, se promenait en ville en scooter. Là, il y aurait des malfrats qui seraient venus à côté, qui étaient en moto, qui seraient venus à côté du scooter. Puis on aurait tiré celui qui était assis sur le banc. Par la suite, on se serait sauvé. Donc, ils n'ont pas volé le scooter. Et quand on a mis la main sur les deux individus qui auraient fait le crime, à l'intérieur de leur sac, il y a une grosse quantité de drogue qui a été retrouvée. Fait qu'on peut présumer, c'est une hypothèse, du moins c'est la mienne, je ne vais pas t'impliquer là-dedans, on peut présumer que le sandwich, c'était peut-être un peu plus de la marijuana que de sandwich. Puis j'en jasais avec les gars, tu sais, moi j'aime bien ça aller dans les resorts, que ce soit au Mexique ou en République dominicaine, mais je reste toujours dans le resort parce que c'est un endroit qui est sécuritaire, c'est sécurisé. Puis bien souvent, ben, t'as la garde nationale qui est là, mais t'as aussi les criminels qui sécurisent ces endroits-là parce qu'ils dépendent énormément de ces endroits-là parce qu'ils ont des investissements. Ils dépendent à 100% du tourisme. Donc, restons dans les resorts, il n'y en a pas de problème. Mais si vous allez avec la faune ambiante dans ces secteurs-là, vous avez un beau téléphone, vous avez une belle montre de plusieurs milliers de dollars, ça se peut que vous attiriez le trouble.
Puis tu viens de donner, Yannick, les conseils de sécurité que j'ai envie de dire importants là-bas. Arrêtez de penser que vous allez partir d'ici, vous êtes le king, vous allez faire une loi là-bas dans un autre pays, avec une autre végétation, une autre culture, une autre façon de faire. D'après moi, j'ai envie de vous dire, attachez votre casse avec la broche, si vous avez envie de jouer aux guerriers là-bas. Là. Ils ont déjà leur faune domestique avec laquelle il faut qu'ils vivent, eux autres aussi, là-bas. Puis... pas sûr qu'on maîtrise tout là-bas. On n'est pas chez nous, pas de minute.
Mais j'ai jasé avec les gars cette semaine sans nommer de nom, puis je sais que tu dois déjà avoir tombé sur son dossier, là. Mais un gars de Québec, qui est un gros vendeur de Québec, voulait devenir le prochain Pablo Escobar en Amérique du Sud. Mais ils l'ont retrouvé dans trois, quatre valises différentes. Là. Je veux dire, on peut pas rire là-bas. Là.
Non, non, non. Tu t'en vas pas là-bas en pensant que tu fais le caïd et pas respecter ce qui se passe sur place. De la même façon que moi, j'ai des connaissances là, qui sont allés là-bas, qui étaient des gars du crime organisé. Ils ont décidé de prendre des photos, de s'étirer un peu le cou sur du monde. Ben, attends un peu, t'es pas à ta place, t'es pas chez vous. Va-t'en pas jouer à la police là-bas si t'as pas le mandat et t'es pas appuyé par les forces locales. D'après moi, tu risques de passer des mauvais quarts d'heure.
On nous dit qu'il y aurait une vague de départ à la Sûreté du Québec. Est-ce que t'en sais plus? Là, il y a déjà des hauts gradés qui ont décidé de partir à la retraite. Est-ce que c'est pour des raisons de budget? Est-ce que ça va bien à la Sûreté du Québec?
Ben oui et non, ça va quand même très bien. Mais il faut comprendre, dans le contexte qu'on est rendu là en ce moment, la partie que je te dirais que je peux en savoir un peu, c'est un phénomène normal qui arrive. Il y a toujours des départs à un moment donné qui se font. Mais en ce moment, on sent qu'il y a une pression des gouvernements à dire « diminuez votre tête, diminuez l'organisation en haut, dans les grandes organisations, à la SQ, mais essayez de couper dans tous les ministères en ce moment. » Personnellement, je vous répondrai rapidement, c'est bon parce que ça risque de modifier des pratiques policières. On va les remplacer par d'autres personnes, puis ça va se faire. Par contre, il faut être conscient qu'on a souvent une perte d'expertise quand tu fais ça. Il faut faire attention. Il y a en ce moment des gens qui étaient là en place, qui étaient extrêmement efficaces, qui géraient ça de cette façon-là. Mais est-ce que c'est encore comme ça qu'il faut qu'on continue à le faire? Je le sais qu'une des choses qui souvent qu'on crie dans les organisations, puis la SQ, comme les villes font vivre avec ça, on installe souvent des personnes civiles en ce moment dans des postes. Pourquoi un civil? Bien, il coûte un petit peu moins cher généralement, mais il y a une tâche d'administrateur. Et nos administrateurs, nos gens, les hauts dirigeants à la fin des organisations policières, bien, ils font et de la police en partie, mais de la politique aussi. Il faut être conscient de ça. Ils sont en train d'administrer notre business. Est-ce que j'ai nécessairement besoin d'avoir une police pour embarquer d'un poste de comptabilité? Pas certain. Je vais avoir quelqu'un qui va le conseiller pour dire toutes nos méthodes qu'on a besoin de faire, donne-moi le budget, justifie-le. Mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Mais laissons ça aller, mais ça fait des années, Yannick, que j'entends aussi parler de certaines affaires. On parle souvent des fois d'une gestion centralisée de plusieurs services de police. La Sûreté du Québec, c'est plusieurs réalités. Ce qui se passe dans le quartier général de Rimouski ou de la Côte-Nord n'est pas la réalité de Montréal. Puis très souvent, on entend les gens de ces régions-là dire « on se fait gérer par Saint-Montréal ». On pourrait peut-être démocratiser un petit peu. Puis je prends le terme, c'est normal, le SPVM, par exemple, bien, c'est une réalité très montréalaise. gérer ça comme Montréal doit être fait. Mais est-ce qu'on doit gérer toutes nos régions de la même façon alors qu'on est installé en haut? Je ne suis pas certain. Comprenez-vous? C'est pour ça que j'ai vécu des forces et des faiblesses à la SQ quand j'étais partagé avec eux dans les escouades. Je reconnais plein de belles qualités. Mais c'est vrai qu'on devrait, je pense, un peu vivre avec les réalités des régions, offrir les supports de la grande province de Québec. Ça, c'est merveilleux, ce que la Sûreté peut offrir, le budget, les ressources, l'effectif à l'occasion, mais respecter un peu le travail terrain. Fait que je pense pas, Yannick, qu'il va manquer de patrouilleurs, mais je pense que peut-être qu'on pourrait couper un ou deux boss, ça ferait peut-être pas si mal que ça. C'est pas impossible.
Dernière question, Roger, puis là, t'as pas le droit de rire. Là. Je te regarde, là. Moi, je te vois sur Zoom, là. T'as pas le droit de rire. Pourquoi c'est des agents de sécurité qui surveillent nos postes de police? Pourquoi c'est des agents de sécurité non armés qui veillent à la protection des policiers qui sont armés à l'intérieur des murs? Aide-moi à comprendre.
J'ai pas ri, OK? Mais je te... c'est une bonne question.
Pas ça, j'ai entendu.
Ouais, c'est entendu, ça, on a entendu un rire, là, Roger Ferland. Wow, wow, wow!
Max, tu t'es trompé un petit peu. OK. Mais ça, ça a été une question que j'ai même eu à débattre moi-même quand on est arrivé. Puis je me rappelle de Roland Bourgette qui m'a posé exactement cette question-là. Il arrivait de SPVM, puis il me dit, Monsieur Ferland, expliquez-moi, c'est quoi le risque à l'accueil du poste de police? Pourquoi à la Sûreté du Québec, on place un agent de sécurité, puis ici, il faudrait que je passe un policier, moi, au poste de police, à Sainte-Foy ou à Québec. Puis maintenant, à Québec, c'est effectivement les premières personnes qui vous répondent, c'est un agent de sécurité. Ben, vois-tu, t'as une solide question. Vois-tu, là, je pense qu'il y a des tâches que tu peux faire effectuer par d'autres personnes.
Oui.
Mais oui, est-ce qu'on utilise du cheap labor? Peut-être un petit peu. Mais est-ce que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui fait le dispatch là, qui a nécessairement besoin d'être armé, d'avoir toutes les fonctions, toutes les choses? À partir du moment où c'est des notions policières que tu as besoin de recevoir, j'ai envie de te dire oui. Mais là, à ce moment-là, place-moi un policier qui va apporter l'expertise.
Ben oui.
Si tu me places dans l'accueil, mais j'aimerais ça qu'on leur offre la sécurité. On nous a dit, oui, ils ont un bouton panique, Roger, pour le faire. Ben oui, ben oui. Là, c'est dans la question que tu viens de me dire tantôt, qu'on vient de dire aussi nos agents correctionnels. Est-ce qu'on leur donne tous les moyens? Ben, Roger, ils barreront dans leur cellule, puis ils vont entendre. Ben oui,
ouais.
C'est ça. Tu veux tantôt quelqu'un à intervenir. C'est pour ça que je pense qu'il y a des choses à repenser. Est-ce qu'on doit faire toujours de la même façon? Dans les postes de la Sûreté du Québec, je ne te cacherai pas, par contre, je trouve qu'ils mettent derrière une vitre en sécurité, c'est correct. Je pense que maintenant, à Québec, ils viennent de rechanger ça. Ils ont placé la première personne qui te répond, c'est un policier.
Parfait.
Maintenant,
sauf à la gate. Sauf à la gate, parce que là, c'est des agents de sécurité. Mais c'est particulier parce que, autant pour la SQ que pour la Ville de Québec puis la Ville de Montréal, c'est des agents de sécurité qui sont là. Puis quand j'étais à base militaire, j'ai fait les deux bases militaires, celle de Val-Bélair, puis Val-Cartier, excuse-moi, puis celle de la Citadelle de Québec. C'est des agents de sécurité qui sont là pour protéger les gens de l'armée, des agents de sécurité.
Ah oui. Non, puis Yannick, ce que tu dis là, moi, j'ai envie de dire, ça a été des gros combats syndicaux à un moment donné.
On est au tiers-monde.
J'ai dit, arrangez-vous donc pour justifier votre poste, on va garder une police là. Si tu es capable de me justifier ton poste, on va te remplacer par quelqu'un d'autre, puis souvent, c'est ce qui s'est passé.
Roger Ferland, bon vendredi.
Merci, bonne fin de semaine à vous, les gars, également, et à tous vos auditeurs.
Au revoir, Bobin. Roger Ferland, ex-enquêteur du service de police de la Ville de Québec. Il a ri, hein?
Pas mal sûr.
Ben oui, il a ri.
Il a vraiment ri, moi, je l'ai entendu rire.
Ben non, gars, puis là, il est sur Zoom, puis il nous entend, puis il dit, voyons, j'ai pas ri, mais il est bien crampé, là, je le vois.
Pense-y, là, base militaire de Val-Cartier, c'est des agents de sécurité.
Ben, je sais, je suis allé là, v'là, quoi, trois semaines?
La madame, là, elle n'est pas capable de courir après toi, là.
La madame, là, était cinq pieds.
Mais non, c'est correct.
Tu comprends vers où j'allais.
Oui. Il fallait pas qu'elle te court après d'une côte.
Non.
T'es méchant.
Ben non, je suis pas méchant.
T'es méchant.
Je décris la réalité.
Max, es-tu méchant, Jeff?
Moi, je vois pas l'eau.
Je suis jamais méchant.
OK. 7h05, 418-971, 101, si vous avez des choses à nous dire.
Il rit encore, Roger Ferland, en passant.
Par texto. Merci de nous en informer, Max.
Ça roule super bien ce matin. 102-1.